Chers auditeurs, bonjour. À nouveau, je suis très content de vous retrouver et de vous faire entrer dans mon cabinet de psychanalyste. Lors de nos premières émissions, je vous avais dit que l'inconscient était une force inconnue qui déterminait nos choix de vie. Eh bien, cet après-midi, nous allons découvrir la variante peut-être la plus pathologique de l'inconscient, celle où il se désorganise et s'affole. En effet, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une des maladies mentales les plus graves, la mélancolie. La mélancolie, c'est la forme la plus extrême de la dépression. Dans un deuxième temps, comme je l'ai fait d'habitude, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées après avoir écouté nos premiers podcasts interactifs déjà en ligne sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr.
L'Inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Je voudrais donc vous parler aujourd'hui d'une souffrance insupportable, de quelque chose de terrible, à tel point que je vous l'avoue, je me suis demandé plusieurs fois si je devais parler à l'antenne d'une souffrance qui a pour nom mélancolie. La mélancolie est une maladie, heureusement, peu fréquente. Qu'est-ce que la mélancolie ? C'est un état de dépression gravissime, comme je viens de vous dire, où la personne malade est envahie par un sentiment de culpabilité obsédant. Le mélancolique se dit à lui-même « Je suis un être maudit. Tout est de ma faute. » Il est tellement convaincu d'être coupable qu'il en vient parfois à se suicider. La mélancolie se présente souvent sous la forme d'une crise délirante survenue à la suite d'un choc émotionnel, comme peut l'être un deuil ou une cruelle déception. Je viens de vous dire que la mélancolie est une crise délirante. Mais qu'est-ce que c'est qu'un délire ? Vous savez, beaucoup parmi nous, nous employons souvent l'expression « tu délires » sans savoir très bien ce qu'est un délire. Le délire est un état d'un malade qui vit sous l'emprise d'une idée fausse en totale opposition avec la réalité. Une idée dont il a la conviction absolue qu'elle est vraie. C'est cela qui est le propre du délire. Si vous voulez, l'essentiel c'est ça, avoir la certitude aveugle d'être dans le vrai. Tandis que le délirant ne doute jamais, nous les névrosés, nous doutons constamment. C'est ça la différence entre le fou et nous. Je tiens donc à ce que vous sachiez que la mélancolie est fréquemment un délire mortifère. Quel délire ? Le plus souvent, c'est un délire de culpabilité impardonnable, où les malades est convaincu d'avoir commis une faute inexpiable. Ce peut être aussi un délire d'impureté, où les malades se dégoûtent d'être souillés, ou pire, alors là je le rencontrais à l'hôpital, pas dans mon cabinet, le malade est horrifié d'être pourri à l'intérieur de son corps. Ou même, ce peut être un délire de ruine, où le malade est persuadé à tort d'avoir perdu sa maison, sa fortune, ses proches. Et dans certains cas gravissimes, excusez-moi de vous le dire, mais cela existe aussi, cela fait partie de la nature humaine. Je veux dire que l'inhumain fait partie de l'humain. Eh bien, parfois, dans certains cas gravissimes, le mélancolique délirant est persuadé d'avoir été évidé de ses entrailles. Oui, il a la sensation d'habiter un corps sans organes. Cette expression « corps sans organes » l'utilisait un de mes maîtres, Gilles Deleuze. Vous le sentez bien, la mélancolie, version extrême de la dépression, est une maladie infiniment grave qui, lors de la crise, nécessite presque toujours une hospitalisation d'urgence pour empêcher que le sujet ne se tue. Assurément, nous sommes à 100 lieues de la belle mélancolie si chère au romantisme du XIXe siècle. Je pense entre autres à Lamartine ou à Vigny, pour qui la mélancolie était le nom merveilleux de leur muse poétique.
Monts gelés et fleuris, trône des deux saisons, dont le front est de glace et le pied de gazon. C'est là qu'il faut s'asseoir. C'est là qu'il faut entendre les airs lointains d'un corps mélancolique et tendre.
Eh bien non. Je veux que vous ayez une vision réaliste et non littéraire de la mélancolie. J'aimerais vous transmettre la rigueur avec laquelle je travaille. Non, la mélancolie n'est pas le bonheur d'être triste, cher à Victor Hugo, ni la douce langueur qui pénètre le cœur de Verlaine. La mélancolie est un délire violent qui déshumanise le malade et l'exclut du monde des vivants. Justement, je me suis occupé plusieurs fois de patients mélancoliques. C'est affreux, la mélancolie, affreux. C'est d'une brutalité inouïe. Je suis gêné d'avoir à évoquer aujourd'hui des pathologies aussi sérieuses, mais cela fait partie de mon métier, et c'est de mon métier dont je voudrais vous parler. Eh bien, quand un mélancolique veut se tuer, il ne se rate pas. Il introduit le canon du revolver dans sa bouche contre le palais où se coupe la carotide d'un geste irréversible. Il n'est plus lui-même. Il délire. Il tue. Il tue en lui son être indigne. Indigne par la faute. Indigne par l'impureté. Ou indigne par la ruine. Oui, la mélancolie est un délire d'indignité. Le malade se sent tellement illégitime, tellement de trop, qu'il lui faut impérativement s'anéantir. C'est pourquoi le suicide est toujours la solution radicale du mélancolique. Le suicide est obsédant. Sans cesse désiré, sans cesse imaginé, sans cesse recherché. Le suicide est vécu par le délirant mélancolique comme un châtiment obligé et surtout comme une délivrance.
Docteur Nasio.
À propos du suicide, nous savons qu'il en existe différentes variantes, chacune étant la culmination dramatique d'une maladie singulière. Un patient hystérique, par exemple, ne se tue pas de la même manière qu'un patient schizophrène. Et un patient schizophrène ne se tue pas de la même manière qu'un mélancolique. Au moment de se suicider, l'homme ou la femme, quelle que soit sa pathologie, est happé par une idée impérieuse qui l'entraîne irrésistiblement à accomplir dans la réalité l'acte qui lui sera fatal. Il n'est des suicides qu'engendrés par une idée, par une image. L'homme qui se tue est toujours envoûté par un rêve. C'est pourquoi quand vous serez devant une personne ayant des idées suicidaires, il vous faut trouver en lui l'idée ou l'image susceptible de déclencher le passage à l'acte. Alors que l'hystérique avale des médicaments, non pas pour mourir, mais pour s'endormir éternellement. Chez l'hystérique, l'idée c'est « je veux dormir, je veux ne plus entendre, je veux ne plus vivre, je veux dormir ». Le schizophrène, lui, se défenestre, non pas pour mourir, lui non plus, mais pour quitter son corps. Je ne supporte plus mon corps. Je veux me séparer de mon corps et que toutes les voix qui me torturent se taisent à jamais. Non, ni l'hystérique, ni le schizophrène ne veulent mourir. Ils veulent tuer en eux le mal qui les empêche de vivre. Et en le tuant, ils se tuent eux-mêmes, sans le vouloir. Quitter le monde ou quitter son corps, voilà leur funeste fantasme. Le mélancolique, au contraire, vous l'avez compris, le mélancolique veut mourir. Il tient à mourir. Il tient absolument à disparaître pour débarrasser la terre de son être maudit. « Je suis de trop, se dit-il, je suis une ordure dans l'univers des hommes et je dois m'annihiler. » Incontestablement, le suicide mélancolique est le plus sauvage et le plus sanglant que je connaisse.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
En ce moment, me revient à la mémoire le cas effroyable de la folie d'une mère. J'ai beaucoup hésité à vous raconter cette histoire. Mais vous la raconter, c'est plus que vous donner un exemple de mélancolie. C'est une manière de vous faire sentir la même émotion que j'ai éprouvée devant un des pires drames humains. Michiko, c'est le nom de la patiente. Michiko est un nom japonais. Eh bien, c'est une patiente asiatique venue me voir à Paris après une longue hospitalisation de 3 ans au Japon, son pays d'origine. Maintenant qu'elle va mieux, elle veut comprendre le cauchemar qui, un jour, a brisé sa vie. Quand je l'interroge sur ce qui l'a amené à me consulter, elle me répond « J'ai une mélancolie et aujourd'hui j'ai besoin de savoir ce qui m'est arrivé. » Étonné, je lui demande « Pourquoi dites-vous une mélancolie ?» C'est la maladie que les psychiatres de l'hôpital m'ont diagnostiquée. Expliquez-moi, lui dis-je. Je ne sais pas. Mon frère aîné, qui était un vrai père pour moi, un dieu, est mort dans un terrible accident d'avion. Quand on m'a appris la nouvelle, je suis devenue folle. J'étais dévastée. Pendant des jours et des nuits, j'ai erré dans les rues de Tokyo, hébété de stupeur. C'est là que j'ai commencé à entendre des voix haineuses, m'accusant d'être coupable de tout et de n'avoir rien fait pour sauver mon frère. Des voix tyranniques qui m'ordonnaient de me supprimer. « C'est de ta faute, tue-toi », m'écriait-elle. C'est vrai que la veille de l'accident, j'avais eu un mauvais pressentiment. Je sentais, je savais qu'il ne fallait pas qu'il prenne l'avion et je n'ai rien fait pour le retenir. Après un court silence, elle poursuit et me dit « À cette époque, j'étais déjà séparée de mon mari et je vivais seule avec Tao, mon petit garçon de 3 ans. Mon frère et mon fils étaient tout pour moi. Parfois, je sentais que mon frère était mon petit garçon, et d'autres fois, que mon petit garçon était mon frère. Mais que s'est-il passé pour que l'on décide de vous hospitaliser ? Lui demandai-je. Ce fut un matin atroce. Tao et moi, nous étions seuls dans la chambre. Je venais de me réveiller et brusquement, j'étais poussé à faire enfin ce que les voix m'ordonnaient de faire. Je ne supportais plus les tourments de vivre alors que mon frère était mort. Lui mort, je n'avais plus le droit de vivre. À cet instant, docteur, j'ai compris que je ne pouvais pas abandonner mon fils et le laisser seul, que je devais l'emmener avec moi et nous retrouver tous les trois réunis dans la mort, sauvés par la mort. Ici, elle se tait et balbutiante m'avoue. Tao dormait encore. J'ai saisi un oreiller, je l'ai plaqué sur la tête du petit endormi. J'ai appuyé de toutes mes forces et je l'ai étouffé. Quand j'ai vu que Tao ne bougeait plus, j'ai attrapé un couteau et me suis tranché la gorge. Lorsque quelques minutes plus tard, la gardienne est montée avec le courrier et l'a trouvé l'enfant mort sur le lit et moi, étendu par terre, dans un bain de sang, respirant encore. Et ensuite, je lui demandais. Ensuite, j'étais transporté aux urgences et une fois rétabli, le tribunal m'a déclaré irresponsable de mes actes et l'on m'a interné en psychiatrie. Vous n'avez donc pas été en prison ? Lui demandai-je. Non, je n'ai pas été incarcéré, mais je suis resté 3 ans à l'hôpital psychiatrique. Petit à petit, je me suis remise et j'ai réussi à obtenir un poste à l'ambassade du Japon à Paris. En fait, je viens vous consulter, docteur, pour comprendre ce qui m'est arrivé. Je n'arrête pas d'y penser. Je voudrais trouver une explication qui pourrait m'aider à vivre malgré l'horreur du souvenir. Thank you. Voilà. Je m'excuse de vous raconter une histoire aussi terrible, mais c'est, comme je vous ai dit, c'est l'inhumain qui est dans tout humain. Voilà ce qu'est la mélancolie dans toute sa cruauté. Si j'ai pu déclarer que la dépression était l'état ultime de la névrose, à présent, avec le cas de Michiko, j'affirmerai que la mélancolie est l'état ultime de la dépression. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous dire un dernier mot sur le destin de notre patiente. Après 2 ans d'analyse, Michiko est retournée au Japon, apaisée, ayant compris que l'enfer de ce matin fatidique avait été la conséquence d'une folie d'amour fusionnelle avec son grand frère. Indéniablement, c'est toujours dans le passé que la souffrance d'aujourd'hui se prépare. L'amour divinisé de hier avec son frère se retournait dans la douleur mélancolique d'aujourd'hui. Je voudrais être très clair. Je pense que la mélancolie s'était déclenchée à la suite d'un amour fou pour ses frères et que la mort de ses frères a été pour elle aussi insupportable. Elle était collée à lui vivant, il fallait être collée à lui mort. Sans doute, Michiko portera-t-elle sa culpabilité jusqu'à la fin de ses jours. Mais à présent, grâce à son désir de vivre, et ayant appris lors de nos séances à revenir sur elle-même, elle s'ouvre à l'espoir d'une nouvelle vie. Vous venez d'entendre l'histoire vraie de l'une de mes patientes et comprendre ainsi comment je travaille en tant que psychanalyste. Mais ne partez pas. Après la musique, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées à la suite de l'écoute de nos podcasts. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me laisser vos questions et remarques soit sur la page de notre site L'Inconscient sur franceinter.fr ou bien sur le répondeur du 01 56 40 64 04.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
France Inter présente son premier podcast interactif. L'inconscient avec le docteur Nasio.
Eh bien, maintenant, c'est à vous de me poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, c'est Brigitte. J'aimerais savoir comment vous distinguez le sentiment de culpabilité du patient mélancolique et le sentiment de culpabilité du patient obsessionnel. Je pose cette question parce que chacun peut parler d'idées sombres ou morbides. Je vous remercie.
Merci pour votre question, Brigitte, parce qu'elle me permet de définir la culpabilité saine chez tout le monde, et puis la culpabilité malade chez l'obsessionnel et chez le mélancolique. Je trouve que c'est important pour les auditeurs, même si nous sortons du cas nettement de la mélancolie, de savoir qu'est-ce que c'est que la culpabilité. D'ailleurs, nous allons parler de la culpabilité le dimanche 9 octobre, mais déjà, je vous demande de distinguer deux choses. Une chose, c'est d'être coupable, objectivement coupable devant la loi. Et une deuxième, très différente, c'est se sentir coupable devant soi-même. Une personne est coupable, par exemple, parce qu'elle a commis une faute. J'ai brûlé un feu rouge, je suis coupable. Tandis qu'une autre personne se sent coupable parce qu'elle a fait mal à celui qu'elle aime ou qu'elle a eu envie de lui faire mal. Par exemple, une maman qui, excédée par les pleurs interminables de son bébé, lui hurle dessus pour qu'il se taise. Aussitôt, cette maman s'arrête et s'en veut toute la journée d'avoir été si brutale. Une chose donc est d'être coupable. Une autre est de se sentir coupable. Ce qui nous intéresse, nous, psychanalystes, c'est le deuxième cas, c'est-à-dire c'est la personne qui se sent coupable. Ce qui nous intéresse, c'est le sentiment de culpabilité. Mais attention, le sentiment de culpabilité est une très bonne chose dans la vie, et surtout dans la relation avec ceux que nous aimons. Pourquoi ? Parce que la culpabilité arrête nos impulsions agressives. Si la maman, excédée par les pleurs de son bébé, avait laissé libre cours à son agressivité, elle aurait fait mal vraiment à son bébé. Or, nous, thérapeutes, nous nous occupons des personnes qui souffrent d'un trop fort sentiment de culpabilité. Ce n'est pas un sentiment de culpabilité sain, c'est un sentiment de culpabilité qui envahit leur vie, c'est un sentiment de culpabilité malade. Et parmi les différentes maladies qui ont un sentiment de culpabilité maladif, nous avons effectivement, et je viens à votre question, la névrose obsessionnelle où les patients est dépassée par une très forte charge agressive. Ça, c'est très important de savoir. L'homme ou la femme obsessionnelle, par exemple celle qui souffre des TOC, et vous connaissez toujours quelqu'un qui souffre des TOC, c'est un névrosé obsessionnel. Eh bien, pour nous, psychanalystes, ce névrosé obsessionnel, cet homme ou cette femme, a un problème qui est une forte charge agressive. Quand un obsessionnel, il est très maniaque, par exemple pour ordonner, pour contrôler, eh bien, ce sont des manifestations de son agressivité. Eh bien, justement, c'est à cause de ce fait qu'il a une très forte charge agressive qu'il va développer un très fort sentiment de culpabilité. Et puis, nous avons un autre cas d'un très fort sentiment de culpabilité, c'est le cas que vous avez écouté, celui de Michiko. Mais là, il est tellement fort le sentiment de culpabilité qu'il n'est plus un sentiment. C'est plus qu'un sentiment chez Michiko. La culpabilité, c'est une conviction absolue d'être coupable et de mériter la mort. Michiko ne se sent pas coupable. Pour Michiko, elle est coupable. Et c'est un délire. C'est-à-dire qu'elle a le délire de qu'elle est indiscutablement coupable et qu'il faut qu'elle meure. Coupable comme vous êtes, vous ne pouvez pas rester en vie. Et elle se tue. Voilà, voilà la différence entre le sentiment de culpabilité maladif chez l'obsessionnel et le sentiment de culpabilité délirant chez Michiko.
Oui, Eric, je vous laisse un témoignage. Je me demande si ma mère n'était pas atteinte de mélancolie. Elle avait laissé une lettre à mon père avant de se suicider où elle disait que elle n'arrivait plus à rire. Depuis toutes ces années, j'ai beaucoup cherché. Je pense qu'elle était atteinte de ce type de mal. À l'époque, c'était dans les années 70, on parlait, je crois, de neurasthénie. Je ne sais pas si c'est le bon terme. À noter que ma mère s'est suicidée avec ses deux enfants, sa fille, donc ma sœur, qui avait 6 ans, et moi, qui avait 2 ans à l'époque. Elle s'est jetée dans la Seine. Et j'ai été le seul repêché, j'ai été le seul sauvé par un homme qui était sur les quais de Seine, qui a vu la Seine se dérouler. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un suicide altruiste ? C'est-à-dire que ma mère avait laissé aussi dans la lettre le fait qu'elle disait à mon père qu'elle prenait les enfants pour qu'il puisse refaire sa vie. Voilà, merci.
Eric, merci pour votre témoignage, qui est aussi poignant que celui de Michiko. Je suis sûr que tous les auditeurs qui vous ont écouté ont été pris par cet événement tragique et par le fait aussi que vous soyez un survivant. Votre histoire est marquée par le fait d'être un survivant. Oui, je pense que votre maman, elle aussi, a été la proie d'un délire mélancolique. Suite, probablement, à une cruelle déception amoureuse qui l'a rendue désespérée, mais aussi haineuse envers l'homme qui l'a abandonnée. Vous dites qu'elle avait fait une lettre dans laquelle disait à votre père qu'elle prenait les enfants pour qu'elle puisse vivre sa vie. Il y a dans cette idée, même si elle était convaincue de ça, il y a beaucoup de rage vis-à-vis de cet homme. Vous savez, dans la mélancolie, il y a la tristesse, mais il y a beaucoup de haine aussi. D'abord, la haine contre soi. Mais dans notre, je ne l'ai pas dit dans le récit de Michiko, mais quand un mélancolique se tue, il tue à l'intérieur de lui quelqu'un qu'il a abandonné. Quand Michiko se tue, il tue aussi son frère. C'est plus compliqué parce qu'elle se tue et elle disait « Je veux rejoindre mon frère qui était mort ». Mais quelquefois, lorsque il y a une déception amoureuse, je ne sais pas si c'est le cas de votre maman, mais je vous raconte ce que les expériences que nous avons avec des patients mélancoliques qui se tuent, ils tuent en eux l'être, la figure de l'être qui les a trahis. Ça, c'est terrible. Quand on ne se tue pas soi-même, on tue quelqu'un en soi. Bon, je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé avec votre maman, mais sachez que c'est comme ça que ça arrive quelquefois.
Oui, bonjour Lucie. Un enfant peut-il tomber dans la mélancolie ? Un enfant qui se suicide, est-ce une dépression ou aussi une mélancolie ? Et je m'interroge sur tous ces suicides d'enfants pendant les confinements et après. Merci d'avance de votre réponse. Au revoir.
Merci pour votre question, Lucie, parce qu'elle me permet d'étendre le thème de la mélancolie. En général, la mélancolie est une maladie mentale grave de l'âge adulte. Il n'y a pas de mélancolie chez l'enfant. Parce que dans la mélancolie, il faut cette lutte interne, cruelle, terrible, entre moi et moi-même. Entre moi et, comme nous disons nous dans notre jargon, entre moi et mon surmoi. Mon surmoi qui m'accuse et moi que je me sens coupable. Eh bien, cette division, cette dissociation, cette lutte interne entre un moi qui se sent accusé par le surmoi, par ce tribunal intérieur, eh bien, ça n'existe pas chez un petit enfant. Mais attention, il y a des enfants qui peuvent se suicider, non pas la mélancolie, mais il peut avoir des impulsions suicidaires chez certains enfants, mais heureusement, elles sont plutôt rares, mais ça existe. C'est une dépression ? C'est très difficile pour nous de dire si c'est une dépression. En tout cas, il y a des impulsions suicidaires fortes qui peuvent surgir chez un enfant. Oui. Nous poursuivons avec les questions que vous m'avez laissées.
Bonjour Monsieur Nazio, ici Jocelyne. Si nous nous référons au classement des syndromes psychiques en névrose et psychose, diriez-vous que la mélancolie peut être définie comme une psychose, d'une part, et d'autre part, qu'elle survient chez un sujet psychotique uniquement ou aussi chez un sujet névrosé ? Merci de votre réponse.
Votre question est importante, Jocelyne, parce que, effectivement, j'aurais pu utiliser le mot psychose dans mon récit. Mais je profite de votre question pour raconter aux auditeurs qui ne sont pas des spécialistes que dans notre communauté des psys, nous distinguons 4 catégories des troubles mentaux. 4. Nous avons les névroses, nous avons les psychoses, Nous avons les états limites, qui est un mélange des psychoses et des névroses, et nous avons les perversions. Névrose, psychose, état limite et perversion. Nous reviendrons souvent sur ces quatre catégories parce qu'elles sont présentes dans notre esprit de psy. Eh bien, entre nous, je vous raconte à vous, auditeurs, ce que nous nous disons entre nous. Alors voilà, je vous donne un secret, puisque ça sera notre code entre nous, les psys. Eh bien, dans la névrose, notre personnalité reste intacte, mais elle est tordue. Dans la psychose, notre personnalité est plus que tordue, elle est cassée. Elle se répare, c'est toujours difficile, mais elle est cassée. Et Michiko, c'est une psychose. J'aurais pu utiliser le mot psychose pour Michiko, puisque Michiko a eu un délire. Et parmi les psychoses, effectivement, nous avons la plupart des maladies mentales graves, comme par exemple la schizophrénie, la mélancolie, c'est le cas de Michiko, la bipolarité. Alors attention, dans la bipolarité, nous avons deux variantes. Il y a la bipolarité plutôt névrose et il y a la bipolarité plutôt psychose. Et enfin, par exemple aussi, nous avons les délires. Les délires sont des psychoses. Vous avez des délires aigus, comme c'est le cas de Michiko, et vous avez des délires chroniques qui durent de longues années. La personne est délirante en permanence, si j'ose dire. C'est le cas de la paranoïa. Eh bien, paranoïaque, c'est un délire chronique qui dure toute la vie et qui s'imprègne avec la personnalité. Tandis que dans le cas, par exemple, de Michiko, le délire est un délire aigu. Ça commence, ça dure et ça termine. Dans le cas de Michiko, ça s'est terminé de manière tragique.
Voilà, j'ai 40 ans et je me pose beaucoup de questions parce que j'ai un papa qui va mal, qui souffre d'une très forte anxiété, une anxiété presque pathologique. Mais malgré ça, je lui en veux terriblement, je suis très très en colère et cette colère me ronge parce que il n'a jamais été là pour moi. Voilà, et je le vois avec ma fille, il a le même comportement qu'avec moi, il est pas du tout empathique, mais c'est vrai que je n'arrive pas à rompre tout lien avec lui, c'est pas mon souhait non plus, je sais que je n'y arriverai pas, mais j'aimerais quand même prendre des distances avec cette colère qui me bouffe, quoi. Donc je voulais savoir s'il y avait des pistes pour dépasser cette colère ou au moins vivre avec.
Oui, bien sûr qu'il y a des pistes pour dépasser cette colère. C'est une colère qui s'est imprégnée en vous, elle est consubstantielle à votre personnalité et effectivement rend votre vie invivable, c'est sûr. Et oui, je ne sais pas si vous voyez un professionnel, mais c'est souhaitable que vous voyez un professionnel. En général, je ne conseille pas d'aller voir des professionnels. D'abord, je crois que l'être humain et a les moyens pour pouvoir trouver des solutions autour de lui, avec les êtres qu'il aime, des proches. Mais quelquefois, oui, il faut un professionnel. Là, je sens la colère trop, comme si elle imprégnait votre être, Élodie, et effectivement, ça serait bien de travailler cette colère, de le parler, de la partager, de revenir dessus, jusqu'à qu'elle s'épuise, elle s'éteigne. Et elle peut s'éteindre. Voilà.
Bonjour Thierry. Merci docteur Nazio pour ce cas bouleversant de mélancolie. J'ai deux questions. La première, vous dites avoir reçu cette femme pendant 2 ans à votre cabinet. Est-ce qu'il est possible d'avoir un espoir face à la psychose et plus particulièrement la mélancolie? Et si oui, comment agir? Deuxième question, on parle beaucoup aujourd'hui, vous le savez, de bipolarité qui renvoie à la psychose maniaco-dépressive. Quel est le rapport de cette bipolarité avec la mélancolie? Merci pour votre réponse.
Merci Thierry de votre question. Effectivement, la mélancolie se guérit, se dépasse. C'est le cas de Michiko. Michiko était déjà rétabli lorsque je l'ai reçu. Elle avait passé 3 ans à l'hôpital psychiatrique. Et quand je l'ai reçu, elle n'avait pas de médicaments, elle ne prenait pas de médicaments et je n'ai pas eu à lui donner des médicaments. Et d'ailleurs, nous avons pu travailler sur des thèmes très difficiles, très délicats, parce qu'elle revenait souvent sur cette scène tragique, cette matin fatidique où elle a tué son enfant. Non, bien sûr, la mélancolie peut disparaître, heureusement, et nous avons cet espoir et j'espère l'avoir démontré avec le cas de Michiko. Comment agir? Eh bien, comme je fais avec tous mes patients, d'abord, être disponible. Deuxièmement, partager avec lui ses émotions, ses paroles, les partager de manière authentique, en étant vous-même thérapeute, en étant vrai. Concernant la bipolarité, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bipolarité peut... Il y a deux variantes en psychiatrie. Il y a deux variantes. Il y a la variante, je dirais, névrotique, où il n'y a rien de cassé. Maintenant, vous le savez, la différence. Et la variante psychotique, où il y a quelque chose de cassé. Et dans cette variante-là, qui est la plus connue, puisque c'est la variante psychotique, ça s'appelait à une époque psychose maniaco-dépressive. C'est une très vieille maladie qui existe. C'est une des premières maladies dans l'histoire de la psychiatrie française. Et bien, cette maladie, on l'appelait la maladie circulaire. Et aujourd'hui, on l'appelle bipolarité, parce qu'il y a deux pôles, le pôle tristesse et le pôle excitation. Bref, le problème, ce sont des malades psychotiques très graves, et là, on a besoin de médicaments très puissants.
Docteur Nasio, merci pour cette magnifique leçon sur la mélancolie. J'en étais restée, comme beaucoup, à l'image un peu romantique de cette humeur noire. Alors, vous citez l'exemple tragique de Michiko. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres formes moins graves que la tentation au suicide? Je pense par exemple à une sorte de mort symbolique comme la castration, la frustration, la réduction à l'impuissance. Vous l'aurez compris, je suis la fille d'une mère ultra-dépressive. Et je comprends grâce à vous qu'elle souffre sans doute de mélancolie. Et je lutte pour ne pas transmettre cette malédiction de l'humeur noire à mes enfants. Mais peut-on échapper à cette maladie? Toute mère est-elle une médée en puissance? Merci beaucoup de poursuivre la réflexion avec vous. Merci. Au revoir.
Merci Estelle de votre question et puis d'avoir mentionné médée. Et j'aurais pu le faire. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que Médée est un personnage de la mythologie grecque qui est obligé de tuer ses enfants. Pas seulement un, elle va tuer plusieurs enfants, Médée. Mais pour venir à votre question qui me paraît très importante, non, la mélancolie, heureusement, ne se transmet pas de manière automatique de mère en fils ou en fille. Et si votre maman est mélancolique ou a été mélancolique, elle vous a pas transmis nécessairement la mélancolie à vous et vous ne la transmettrez pas à vos enfants. Et parce que pour que la mélancolie apparaisse, il faut de nombreux facteurs causaux, beaucoup de raisons, beaucoup de motifs. c'est tout un contexte de causes pour provoquer une maladie. Donc la transmission, non. Par contre, il y a une transmission, oui, pas de la mélancolie, mais transmission d'angoisse. Ça, oui, je les vois en permanence dans le travail avec mes patientes femmes en particulier. Une femme angoissée, en général, a une maman angoissée. Alors, il faut savoir aussi, c'est très intéressant, nous allons certainement y revenir dans d'autres émissions, qu'il y a autre chose qui se transmet aussi très facilement, c'est l'agressivité. Beaucoup de fois, je reçois des enfants, 3 ans, 4 ans, agressifs. C'est-à-dire qu'ils mordent leurs camarades dans la cour de récréation. Et c'est systématique qu'un enfant avec des comportements agressifs, on trouve toujours, souvent, un papa ou une maman qui a des comportements agressifs aussi. Donc vous en avez l'angoisse qui se transmet, l'agressivité qui se transmet, l'énurésie aussi, faire pipi au lit des enfants. Souvent, c'est la maman ou le papa qui a eu ce type de problème lorsqu'ils étaient enfants. Enfin, un jour, nous parlerons de la transmission des maladies et des symptômes. Eh bien, merci à tous pour vos questions parce qu'elles nous ont permis d'aller plus loin, d'approfondir un thème qui n'est pas toujours facile à aborder et qui est douloureux. Voilà, le moment est venu de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre émission et des podcasts. N'oubliez pas les podcasts. Ainsi que Tiffany Battistel à la technique. Nous nous retrouverons dimanche prochain à la même heure. D'ici là, vous pouvez découvrir notre prochain épisode consacré à François Dolto et à son secret, car vous verrez, François Dolto avait un secret, et c'est de cela dont je vais vous parler dimanche prochain. Mais en tout cas, vous pouvez trouver cet épisode sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr. Je vous invite à l'écouter, à réagir et à me laisser vos questions. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine à tous.